Éphésiens chapitre 2, au verset 8 à 10. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions. Dans cette petite épître qui est adressée aux Éphésiens, il y a un thème qui se développe à travers les 6 chapitres. Les mots « marcher »,« marchions », »,« conduite », »,« conduisez » vont être mentionnés plusieurs fois. Dans chaque verset, c'est le même mot grec, péripatéo. Sa référence, notre conduite de vie ou notre façon de vivre. Quand quelqu'un va à l'armée, ils vont l'apprendre à marcher. Il y a une certaine façon qu'ils veulent que tu marches et que tu te conduises. L'armée va prendre une personne qui était fermier, une personne qui habitait en ville, une personne qui venait des montagnes, une personne qui travaillait peut-être avec les ordinateurs, une personne qui vient de l'Est, de l'Ouest, qui ont tous des passés différents, et ils vont les transformer en soldats pour accomplir un but bien précis. Même l'armée à une code de conduite. Selon le verset 10, Dieu aussi, il a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que chaque personne qui reçoit son cher Fils comme leur sauveur, par la grâce, par le moyen de la foi. Vous voyez, l'armée peut refuser les personnes qui viennent pour s'inscrire. S'il y a des problèmes de santé, ces personnes peuvent être refusées. Peut-être qu'ils ont fait des mauvaises choses dans leur vie qui vont les empêcher d'être acceptés par l'armée. Peut-être qu'ils sont trop jeunes ou trop vieux. Mais gloire à Dieu, dans l'armée de Dieu, Dieu ne refuse personne qui vient à lui par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur » sera sauvé. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, tout le monde, qui croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit en mauvaise santé. Si on a fait des mauvaises décisions, on a tout simplement vécu une vie honorable. Dieu veut que tous viennent à la repentance et croient en Jésus-Christ comme leur sauveur. La Bible nous dit dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Qui sont les personnes que Dieu recherche pour les sauver? Qui sont ces gens? Au chapitre 2 de Éphésiens, Dieu nous donne une description de l'état de chaque personne avant qu'ils soient sauvés. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 1 à 3, on a cette description qui nous est donnée de toute personne. Qu'on soit jeune, vieux, mauvaise santé, bonne santé, riche, pauvre, on est tous le même avant d'être sauvés. Et dans Éphésiens chapitre 2, au verset 1 à 3, ça dit « Et vous, ça c'est n'importe qui, étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché, ça c'est notre conduite, comment on se conduisait, autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Ça, c'est la description de tout le monde avant qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur. C'est la vie de chaque personne qui n'est pas sauvée. Elle peut être décrite comme on vient juste de lire. On peut remarquer partout, que ce soit à notre place de travail, que ce soit pour les jeunes à l'école, que ce soit ceux qui sont à l'université, et parmi même nos amis, on peut remarquer des groupes de personnes qui se forment. Tu as des groupes qui aiment une certaine musique. Alors ces gens-là vont être attirés les uns aux autres. Tu as des gens qui aiment un certain sport, donc ça va les attirer les uns aux autres. Tu as des gens qui apprécient un certain loisir, alors ils vont être vraiment poussés à aller avec des gens qui aiment les mêmes choses qu'eux. Il y a des gens qui aiment un certain style de vêtements, une certaine mode, si on veut. Alors, ils vont être attirés par ces gens-là. Et selon le verset 2, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens? Ils vont marcher selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et dans le verset 3, ça dit, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Je vais utiliser l'exemple de la musique. Pourquoi est-ce que quelqu'un écoute un certain style de musique? Pourquoi? Parce que tu as des gens qui aiment un certain style, tu as d'autres personnes qui n'aiment pas ce style-là. Ils préfèrent autre chose, si on veut. Ça ne les intéresse même pas. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans la vie? C'est comme le verset nous dit, ici dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 3, « Chaque personne agit selon les désirs de sa chair et de ses pensées. » Quand tu t'arrêtes à un feu rouge et tu regardes dans la voiture à côté de toi et tu entends de la musique qui vient de cette voiture, et puis tu commences à regarder le conducteur ou les passagers, et tu vas voir quelqu'un ou des personnes qui sont en train de vous donner une petite performance. Ils sont en train de bouger et chanter avec la musique qu'ils écoutent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils agissent selon leurs désirs. Peut-être que cette musique ne t'intéresse pas. Peut-être que cette musique, t'as aucun goût pour cette musique-là. Mais pour ces gens-là, ils aiment ça et ils agissent selon leurs désirs. La musique, c'est quelque chose qui se trouve partout. Partout où on va, tu vas dans un magasin, tu vas entendre la musique. Tu vas dans un ascenseur, tu vas entendre de la musique. Vraiment, dans tous les pays, tous les pays au monde, ils ont tous de la musique. Peut-être que c'est dans leur voiture, peut-être que c'est sur la radio, la télé, l'ordinateur, le cellulaire, dans les magasins. Et vraiment, la musique, et c'est vraiment partout au monde. La musique a une très grande influence. La musique exige un certain contrôle sur ceux qui l'écoutent. Pensez-y. Je fais référence aux personnes dans la voiture à côté de vous, au feu rouge. Et ils sont en train d'écouter certains styles de musique. Cette musique a une exigence sur eux. Ils sont en train de bouger, danser si vous voulez. Ils sont en train de bouger avec le rythme de cette musique. Ça exige quelque chose d'eux. Et pensez à l'hymne national. Quand on chante l'hymne national de votre pays à un match de sport ou quelque chose comme ça. Pensez à l'énergie que ça donne, non seulement aux joueurs, mais à tous les spectateurs et comment ils sont engagés. Ça leur donne un sens de patriotisme. Le musicien est celui qui a créé beaucoup de musique Johann Sebastian Bach. Il a dit quelque chose de très intéressant à propos de la musique. Il a dit ça. Le but et la fin de toute la musique ne doivent être que la gloire de Dieu et le rafraîchissement de l'âme. Ça c'est intéressant. Ça c'est un homme qui connaissait la musique. Et il a dit tout but pour toute musique devrait être. Il a dit le but et la fin devraient être pour la gloire de Dieu et le rafraîchissement de l'âme. La musique est une harmonie agréable pour l'honneur de Dieu et les plaisirs autorisés de l'âme. Là où on ne se souvient pas de cela, il n'y a pas de vraie musique, mais seulement un centre diabolique. Ça, c'est les mots de Johann Sebastian Bach, un homme qui connaissait la musique et l'influence de cette musique et pourquoi musique devrait être créée. J'aime ce qu'il dit. Il dit, c'est pas la vraie musique. Si ça honore pas Dieu, si ça prend pas plaisir à l'âme, il a dit, c'est pas la vraie musique, ça. Mais c'est un centre diabolique. Johann Sebastian Bach, il a dirigé et composé toutes ses compositions. Et il commence chaque composition, quand il écrit la musique, avec G, G. Non, J, J, excusez-moi. un petit manque de français. J, J. Ça veut dire Jésus Jouva, qui signifie Jésus aide-moi. Quand Sébastien Bach a créé toutes ses compositions, toute sa musique qu'il a créée, au début, les premières notes, si on veut, les premières choses qu'il a écrites, c'était J, J. Jésus Jouva. Jésus, aide-moi. Il a aussi terminé toutes ses compositions avec les lettres S, D, G. Soli Deo Gloria, qui veut dire à Dieu seul la gloire. Dans ma vie, j'ai parlé avec beaucoup de chrétiens et aussi avec beaucoup de non-chrétiens qui m'ont parlé de l'effet que certaines musiques avaient sur eux. Beaucoup ont parlé du fait qu'ils ont commis des péchés d'une nature sensuelle parce qu'ils étaient influencés par une certaine musique qu'ils écoutaient. Et ils ont agi selon leur convoitise. Beaucoup de péchés sont commis. Et qu'est-ce qui est présent? C'est la musique. Ils n'écoutent pas des chansons qui donnent gloire à Dieu, mais ils écoutent des chansons qui excitent les convoitises de la chair. De la musique qui a pour centre un centre diabolique. Dieu est venu pour sauver les personnes qui suivent leurs propres désirs. Il est venu sauver ceux qui suivent leurs propres pensées, pour ceux qui agissent selon leurs propres convoitises et ceux qui suivent le train de ce monde. Gloire à Dieu, parce que c'est le témoignage de chacun de nous avant qu'on a reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur. Oh, je suis tellement content que Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui avaient ce témoignage, qu'ils vivaient selon leur propre convoitise, qui suivaient le train de ce monde. C'est ces personnes-là que Jésus est venu sauver. Dans nos versets, Dieu nous rappelle qu'il a préparé des bonnes œuvres afin pour que nous qui sommes sauvés, on va marcher dedans. Dieu ne veut pas qu'un de ses enfants marche selon le train de ce monde. Dieu ne veut pas qu'un de ses enfants marche selon le prince de la puissance de l'air, qui est Satan. Dieu ne veut pas qu'un de ses enfants marche selon leur propre désir. Non, Dieu a quelque chose de beaucoup mieux pour l'enfant de Dieu. Il a un meilleur choix. Il a un meilleur chemin pour ceux qui le connaissent. Retournons à Éphésiens chapitre 2, au verset 4 à 7 maintenant. Et on voit le changement. Le verset 1 à 3, c'est notre témoignage avant d'être sauvé. Mais maintenant qu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, regardons ce que Dieu veut. Éphésiens 2, 4 à 7, ce que lui, il dit. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. On était morts dans nos fautes. On suivait le train de ce monde. Mais au jour où on a accepté Jésus-Christ par la foi, Dieu nous a rendus à la vie. Dieu va changer notre conduite. Il va changer notre façon de marcher. Dieu veut qu'on vive selon ses pensées, pas nos pensées. Dieu veut qu'on vive selon sa volonté et pas notre volonté. Ça, c'était l'homme avant d'être sauvé. Mais maintenant qu'on est sauvé, il y a une grande différence. Maintenant, on va suivre ses commandements. On va agir selon son bon plaisir. La Bible nous dit qu'on est en Christ et qu'on est une nouvelle créature. Je pense à la chenille. Une chenille va devenir un papillon. Quand la chenille va sortir du cocon, il y a une transformation qui se passe. Le papillon ne se comporte plus comme une chenille. C'est fini ça, c'est complètement fini. Cette partie de sa vie est finie. C'est le passé. Maintenant, il est un papillon et le papillon a une liberté que la chenille n'avait jamais connue. Avant que j'étais sauvé, la Bible dit de moi dans Romains 3, 23, car il n'y a point de distinction puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. J'étais privé de la gloire de Dieu. Mais maintenant, la Bible nous dit que je suis assis dans les lieux célestes. Pensez à ça. Avant d'être sauvé, parce qu'il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché, tous étaient privés de la gloire de Dieu. Avant d'être sauvé, j'avais aucun accès à Dieu, mais le jour où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, la Bible me dit que je suis assis ensemble dans les lieux célestes. Avant, j'avais aucun accès. Mais maintenant, je suis assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne veux pas retourner dans la condition que j'étais avant d'être converti. Et je sais que pour vous aussi, ça devrait même pas nous intéresser. Comme le papillon qui est délivré de son ancienne vie, nous aussi, comme chrétiens, on a une nouvelle liberté en Christ. On a été délivré de nos fautes, de nos péchés. On a été privé de la gloire de Dieu. Mais maintenant, on est assis dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Dieu nous donne une nouvelle conduite. Et il nous dit comment on devrait se conduire ou marcher. Éphésiens chapitre 4, au verset 1 et le verset 17. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Là, c'est ce que Dieu veut. À travers l'apôtre Paul, il écrit, il dit, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 17. Voici donc ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit. On doit se conduire d'une manière digne, amen, du Seigneur, et ne plus nous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit. Regardez Éphésiens chapitre 5, au verset 2. Ça dit, « Et marchez dans la charité. » Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. « Comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. » Verset 8. « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Dieu nous dit de pas nous conduire comme les gentils, de pas nous conduire comme ceux qui étaient mentionnés dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, selon notre ancienne conduite. Maintenant, il nous dit de marcher dans la charité. Il nous dit de marcher comme des enfants de lumière. Éphésiens chapitre 5, au verset 15. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu veut qu'on se conduit avec circonspection. Ça veut dire quoi, ce mot circonspection? Ça veut dire de nous conduire avec la prudence, d'évaluer notre marche et être sûr que ça fait plaisir à Dieu. Dieu met beaucoup d'importance sur notre marche, sur notre conduite chrétienne, parce qu'au chapitre 6, Dieu va nous rappeler qu'on est dans une bataille spirituelle. Et si notre marche ou notre conduite n'est pas correcte, si on ne marche pas comme Dieu le veut, si on marche selon le train de ce monde, qu'est-ce qui va se passer quand la bataille va intensifier? Quelqu'un qui ne marche pas correctement, qui ne marche pas avec circonspection, il va pas se soucier de prendre toute l'armure de Dieu. C'est comme le soldat qui prend pas son entraînement, sa formation sérieusement. Qu'est-ce qui va se passer pour lui quand il va se trouver dans la bataille? Ça peut lui coûter la vie. Ça peut aussi avoir un effet sur les autres dans sa compagnie. C'est tellement important comme grand-père, grand-mère, comme maman, comme papa, comme frère et sœur, qu'on se conduise d'une manière digne du Seigneur. Parce que si on prend pas notre formation sérieusement, si on prend pas ce que Dieu veut de chacun de nous sérieusement, et qu'on s'applique pas et qu'on marche pas avec circonspection, non seulement ça peut avoir un effet sur nous, mais aussi sur notre famille chrétienne, sur nos frères et sœurs en Christ, au sein de l'Église et sur notre famille, nos enfants, peut subir les conséquences si nous ne marchions pas selon les Saintes Écritures et selon les choses qui font plaisir à Dieu. Que Dieu nous aide à nous conduire avec circonspection. Pas juste pour nous, mais afin que les autres qui sont autour de nous puissent connaître le Seigneur. Dieu met beaucoup d'importance sur ce sujet de marcher, notre conduite aux épîtres, aux Éphésiens. Notre marche ou conduite, c'est notre responsabilité personnel. Personne ne peut faire ça que vous. Vous êtes le seul qui peut marcher pour Dieu. Vous êtes le seul qui est responsable pour votre propre conduite envers Dieu. Moi, je suis responsable pour ma conduite, comme mon épouse est responsable pour sa conduite et mes enfants sont responsables pour leur conduite. Oh, que Dieu nous aide à marcher d'une manière digne du Seigneur, qui va lui donner beaucoup de gloire. Et que Dieu nous aide à pas marcher selon le train de ce monde, de pas marcher selon les convoitises de notre propre chair, mais d'agir d'une façon qui va donner beaucoup de plaisir à Dieu. Je vous encourage aujourd'hui de renouveler votre marche avec Dieu. Étudiez cet épître aux Éphésiens et voyez tout ce que Dieu dit à propos de notre marche et pourquoi c'est tellement important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées dans le livre des Éphésiens qui a à voir avec nos relations personnelles, nos relations entre homme et femme, mari et son épouse, et aussi parents avec les enfants envers les parents, et puis notre marche comme une communauté chrétienne. Que Dieu nous aide à vivre pour lui. Que Dieu vous encourage et vous bénisse. Amen.